Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Jean Guinel, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Histoire secrète de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. C'est une plongée au cœur de cette direction composée en grande partie de ce qu'on appelle les espions. Alors déjà ce que vous remarquez, c'est que depuis 2008, il y a une montée en puissance clairement de la DGSE. 4400, c'est ça, employés en 2008, 7000 en 2019, c'est énorme.
Eh ben, c'est effectivement le terme de montée en puissance est bon. C'est-à-dire que les fonctions de la DGSE, notamment les fonctions techniques, exigent de plus en plus de moyens humains, de moyens matériels, de moyens de calcul. Et tout ça, il faut du monde pour ça. Et il faut aussi, dans un monde, tous nos auditeurs le voient, que le monde d'aujourd'hui est totalement cul par-dessus tête dans tous les sens. C'est-à-dire depuis les printemps arabes, l'élection de Trump, le Brexit, le Brésil,
le Venezuela,
l'Argentine, la Russie. Tout ça exige non pas forcément de faire de l'espionnage dans ces zones,
mais d'observer
avec des moyens secrets, c'est-à-dire qui sont différents de ceux de la diplomatie. C'est-à-dire que si le président de la République a besoin de comprendre quelque chose qui est vraiment difficile et qui voit pas, on peut envoyer des agents secrets qui vont faire un travail complémentaire de celui des diplomates.
Alors parlons-en des recrutements, parce que vous dites que pour être recruté, il vaut mieux par exemple ne pas fréquenter de journalistes ou d'avocats.
C'est pas conseillé.
Il vaut mieux avoir des parents militaires.
Ah, exactement. C'est pas conseillé de... Moi j'ai des jeunes...
Je suis grillé moi, je pourrais jamais être agent secret.
Ah bah non. Bah non, sauf que quand on est journaliste des fois... Ce qui est la noble profession que nous exerçons tous les deux, il arrive que des journalistes fassent un peu des extras et se fassent payer par les services.
Ah oui, ça existe.
Oui, c'est pas, je trouve pas que c'est une bonne idée. Ouais. Mais oui, bien sûr, il vaut mieux être propre sur soi, c'est sûr.
Alors, faut que vous nous parliez de l'école de Ploufragan dans les Côtes d'Armor, qui serait une pépinière de la DGSE. Qu'est-ce que c'est ça?
Alors, l'école de Ploufragan, c'est une très belle histoire que je trouve tellement symptomatique de la nécessité d'un ancrage des services de renseignement dans la population. C'est-à-dire que c'était initialement, à la fin des années 40, c'était une école catholique de radio pour la marine marchande. Et juste à côté, à Perros-Guirec, il y avait une énorme station de contrôle radioélectrique qui écoutait les communications au-delà de la mer et tout ça. Et l'école s'est progressivement transformée en centre de formation pour ces techniciens-là. Et puis, elle est tombée en déshérence. Et donc, ils ont eu l'idée de se rapprocher du CNAM.
Conservatoire des Arts et Métiers.
Des Arts et Métiers. Et donc, le CNAM a sauté sur l'occasion. Et il forme les gens pour la communauté du renseignement à l'analyse, à l'interception, aux langues, et pour les amener au concours pour les techniciens très très utiles au service pour donc toute la communauté du renseignement.
Effectivement, une pépinière.
Mais surtout la direction technique de la DGSE.
Ouais. Alors, vous dites aussi qu'on recrute sur LinkedIn, le fameux réseau pour cadres notamment. Enfin, c'est plutôt surprenant, non?
Alors.
C'est un peu des petites annonces.
Oui, mais si vous voulez, ça fait partie de cette ouverture. On ne sait pas ce qu'ils font avec les gens qui recrutent, évidemment. Mais ils disent ce dont ils ont besoin. Donc on a besoin, disent-ils, ils rédigent une petite annonce avec un nom inventé de recruteur qui va recruter des techniciens réseau de tel truc, des programmeurs, des gens qui connaissent les télécoms. Et puis l'une des manières de rentrer dans ce truc-là, qui est absolument diabolique, c'est de diriger les gens vers des pages internet où ils doivent résoudre des énigmes pour pouvoir... Autant vous dire que moi, j'ai même pas réussi à me balader sur la page.
De toute façon, vous êtes journaliste, vous. C'est déjà,
oui, mais
c'est déjà
j'avais envie de voir d'à quoi ça ressemblait derrière. Et j'ai pas réussi à passer la première page. Et il y a eu, l'année dernière, 20 000 personnes qui ont essayé de passer cette épreuve en ligne, annoncée sur LinkedIn, et 50 qui sont arrivées jusqu'au bout.
Alors parlons du Bureau des Légendes, parce que paradoxalement, il y a quand même un lien entre le Bureau des Légendes, juste une fiction hors sol, mais un lien pas seulement dans le scénario,
un lien très étroit,
mais
oui.
Dans la réalisation elle-même.
Oui, il y a un lien très étroit qui n'est pas mis en avant par la production du Bureau des Légendes et que la DGSE admet du bout des lèvres. Mais en fait, le Bureau des Légendes, c'est une œuvre de fiction totale. L'endroit qu'on appelle le Bureau des Légendes, c'est une magnifique invention d'Éric Rochon. C'est assez étonnant. Mais ils sont vraiment en contact et je crois comprendre que le réalisateur, enfin qu'Éric Rochon, fait valider ses idées au sens où, quand il a une idée, il leur demande est-ce que c'est complètement dingue et complètement impossible ou est-ce que on est dans le domaine quand même du plausible.
Mais c'est pas de la censure, c'est de la consultation.
Plutôt, non, c'est pas du tout de la censure, c'est pas du. La DGSE n'est pas coproductrice, m'a-t-elle assuré. Et puis les choses ont été assez compliquées, assez longues à se mettre en place, mais maintenant ils sont vraiment dans une relation de confiance et la DGSE se sert ouvertement du bureau des légendes pour recruter, parce que au sein même de la DGSE, on dit qu'il y a des OTBDL, c'est-à-dire des officiers traitants bureau des légendes, qui sont venus, qui ont cherché à passer le concours de la DGSE.
Parce qu'ils avaient vu ça
dans le bureau des légendes. Alors après, quand ils arrivent, évidemment, il faut leur expliquer que ce qu'ils ont vu dans le bureau des légendes, c'est pas du tout la réalité.
Ouais. Vous dites que ça aurait créé des tensions entre Bernard Bajolet, donc le patron de la DGSE à l'époque, et le cabinet de Jean-Yves Le Drian.
Oui. Alors, Bernard Bajolet, Jean-Yves Le Drian et son directeur de cabinet d'alors, Cédric Lewandowski, sont trois hommes qu'on pourrait dire, très aimablement, ombrageux. Chacun est fort de ses prérogatives et tout à fait désireux de les faire valoir. Et Bajolet, il avait estimé que le bureau des légendes, c'était l'affaire de la DGSE, c'était pas l'affaire du... Voilà. Et quand il y a eu la première soirée, la première projection devant les personnels du service, le cabinet du ministre voulait être présent pour participer à la fiesta. Et il leur a dit non. Donc ça a été assez chaud. Et puis après, ça s'est rangé, ça s'est arrangé, d'autant plus que le ministère de la Défense, dans le cadre de sa mission cinéma, prête des locaux aux réalisateurs.
Alors la DGSE a toujours été une direction extrêmement secrète. On a vu qu'avec François Hollande, il y a eu des fuites, hein, notamment dans Le Monde. Quel est le rapport qu'Emmanuel Macron lui entretient avec ce service, avec cette direction ?
J'ai envie de vous dire que Nicolas Sarkozy avait un rapport un peu passionné, mais tout à fait décomplexé. Que François Hollande était, ben on l'a vu... était un curieux, c'était Candide qui racontait tout, donc ça c'est pas possible. Emmanuel Macron, j'ai envie de, je ne sais pas. Je crois qu'on est dans une relation plus sereine,
plus professionnelle. Voilà. Tous sur voilà. Ce terrain-là.
Oui, il est pour l'instant à ce stade, les secrets ne sont pas diffusés et l'Élysée est totalement fermée à la dans ce domaine-là. Hein. Même si on appelle l'Élysée pour demander quelle heure il va faire à 12h30, ils vous répondent pas. Ils disent c'est secret, on peut pas le dire, vous pouvez pas savoir. Vous demandez des entretiens, on vous répond pas ou on vous répond le jour où vous rendez vos épreuves 6 mois après la demande. Donc voilà, mais heureusement, on vit dans une démocratie, donc il y a des gens qui parlent quand même.
Merci Jean Guinel, merci donc de toutes ces explications. Je rappelle que votre livre s'appelle Histoire secrète de la DGSE et je précise qu'il est édité chez Robert Laffont.